peut sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes, allez-y.
J'adore sortir. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous, bordel.
Je sors encore plus.
T'avais la fête, t'avais les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez les fermes, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. C'est trop intéressant. Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est cool. Sortez
les jambes.
Ok, vous voulez sortir?
Au chien bleu, chez
sortir.
Je suis chocolat,
vous sortiez tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Et parce que je n'arrive jamais seule pour présenter cette émission, je suis bien évidemment avec Samuel. Salut.
Salut, Marie.
Donc ça faisait un petit moment que l'on n'avait pas réalisé d'émission verte sur des thématiques environnementales. La dernière émission en date, c'était fin novembre, lorsqu'on recevait le Conservatoire d'espaces naturels d'Indre-et-Loire. L'émission est d'ailleurs disponible en podcast sur radiocampustour.com pour l'écouter ou la réécouter. Et donc c'était l'occasion de faire découvrir leurs actions de préservation des espaces naturels et d'en apprendre plus sur les écosystèmes autour de nous. Et à ce propos, donc, il y a l'exposition temporaire au Muséum d'Histoire Naturelle de Tours qui, jusqu'en septembre, vous permet de découvrir les espèces aquatiques locales avec un parcours immersif et informatif.
Mais aujourd'hui, c'est à propos de la transition écologique d'un organisme majeur dans la vie des étudiants, car aujourd'hui, nous avons le Crous Orléans-Tours, puisque nous recevons Paul-Émile, chargé de mission de transition écologique, ainsi que Maëva, qui réalise son service civique au Crous, afin de mener des actions de sensibilisation autour de cette question de transition écologique. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Coucou.
Donc, est-ce qu'il est possible donc, de nous expliquer quel est ton rôle en tant que chargé de mission transition écologique au sein du Crous Orléans-Tours?
Oui, bien sûr. Bah, donc, c'est une mission relativement nouvelle hein, pour les Crous. Évidemment, on s'est mis un petit peu aussi depuis quelques années à s'occuper de ça. Alors, on le faisait peut-être parfois sans s'en rendre compte, mais voilà, on va dire que maintenant, c'est bien plus ancré. Et donc je suis à 100% sur cette mission-là depuis quelques mois hein, seulement. Avant, je le faisais... Quand j'en avais le temps, et donc désormais voilà, je peux m'y consacrer à 100%, donc ça c'est très chouette. Et donc bah, concrètement, mon travail se répartit dans divers domaines, ça va être autant sur les questions de mobilité, que ce soit pour les agents du Crous ou pour les étudiants, sur la partie restauration avec tout ce que vous imaginez derrière, le végétarien, le bio, le gaspillage alimentaire, sur l'hébergement, voilà, on peut avoir des passoires thermiques en Corse et voilà, comment on fait pour les rénover, etc. Où est-ce qu'on va chercher l'argent. Voilà, il y a question de sobriété numérique aussi un petit peu, voilà, tout le parc informatique et téléphonique qu'on peut avoir. Et puis voilà, je crois que j'oublie pas grand chose. Si, bah, il y a juste la question après du pilotage, on appelle ça, c'est-à-dire en gros faire en sorte que la transition écologique soit vraiment tout le temps présente dans la moindre prise de décision qu'il y a au Crous sur tous les sujets qui existent. Quoi.
Et donc Maïva, tu as commencé début janvier ton service civique. Quel est ton rôle au sein du coup de ce service civique et qu'est-ce qui t'a amené à réaliser ce service civique au sein du Crous en tant que au sein de la transition écologique. Wow.
Alors, moi, pour ma part, je vais bientôt commencer en février avec plein d'activités pour les étudiants sur la transition écologique. Ça sera surtout des activités en résidence, mais aussi dans les rues, dans les différentes rues de Tours. J'ai quelques idées d'animation que je pourrais donner pour ce mois de février, comme par exemple faire une clean walk qui a déjà été proposée par de nombreuses associations étudiantes. Mm-hmm. Donc ça serait pas mal que plein de personnes puissent venir à ces événements comme ça. Ensuite, par exemple, il y a aussi des cahoots écologiques, des jeux de société écologiques aussi. J'ai aussi eu l'idée de faire des décorations avec des déchets comme des pots de yaourt ou des bouteilles qu'on puisse les recycler comme décoration pour les étudiants. Et en fait, moi, ma mission, c'est surtout de sensibiliser les étudiants à l'environnement, mais aussi à sauver la planète, en tout cas. Enfin, c'est un peu...
Pardon, c'est ça. L'objectif final, c'est ça. T'as raison.
Pardon. Ça fait très écologique comme ça, mais c'est clairement
c'est
ça.
C'est le cas. Mais est-ce que, du coup, qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a amené à faire ce service civique-là et pourquoi dans l'organisme du Crous?
Alors déjà, j'ai un bagage étudiant en biologie, biodiversité, écologie. Donc c'est tout à fait naturellement que j'ai été tournée vers ce service civique. Après, là, vu que je ne suis plus étudiante, je suis en année de césure. Donc j'ai voulu donner mon temps à vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, donc l'écologie. Et je regardais dans le site du service civique et j'ai vu mission éco-ambassadrice et je me suis dit c'est génial parce que j'aimerais bien sensibiliser les étudiants parce que moi-même j'étais étudiante et je voyais bien dans la résidence où je vivais que c'était pas clairement la priorité. Ouais. Et donc c'est comme ça que je me suis décidée à faire ce service écologique.
Tu étais sur la résidence à Grandmont ?
Non, pas du tout. Je viens même pas de Tours. Okay. Même pas de la région.
Mais donc, de Lille.
D'accord. Et donc, c'est l'écologie qui t'a ramené en Touraine.
Waouh. Ce voyage.
Ouais, ce voyage. Et alors, pour mieux comprendre les actions qui sont mises en place par le CROUS, qui est un établissement public, quand est-ce qu'a commencé la transition écologique dans la structure ?
Bah, comme je disais, c'est assez récent en effet. En tout cas, on va dire officiellement, c'est plutôt récent. Avant, il y avait peut-être des actions qui existaient, mais qui étaient ponctuelles ou tu vois, qui étaient faites peut-être parfois pour des raisons économiques, mais il s'avère que c'était aussi écologique de le faire. Enfin, tu vois, voilà, c'était peut-être pas forcément conscientisé, on va dire. Mais voilà, la transition écologique au CROUS Orléans-Tours, elle a 3-4 ans, quoi, à peu près en même temps que le Covid. Et ça s'accentue. Voilà, chaque année, on fait de plus en plus de choses. Voilà, maintenant, on a une stratégie régionale de transition écologique qui a été récemment présentée au conseil d'administration. Voilà, tout ça s'est mis en place. Et là, on est un peu dans la mise en œuvre concrètement quoi, sur le terrain. Et c'est pour ça aussi que maintenant, on a fait appel à un volontaire en service civique pour aussi proposer des choses au plus près des étudiants. Parce que voilà, moi, du coup, je n'ai pas trop le temps d'être avec les étudiants, je suis plus sur aller voir les collègues pour parler du nouveau marché du pain, je dis n'importe quoi, mais voilà, aller voir les collègues des bâtiments pour savoir comment on fait pour en effet isoler mieux tel truc, comment ça va se passer, est-ce qu'il a besoin de moi pour faire une demande de subvention pour tel truc, enfin voilà. Donc du coup d'avoir Maëva, c'est une chance parce qu'elle va pouvoir garder aussi ce lien avec les étudiants, parce que nous on peut presque l'oublier parfois en tant que personnel administratif, enfin on l'oublie pas je veux dire, mais de fait on n'en voit pas forcément beaucoup les étudiants, donc voilà, d'avoir Maëva qui puisse garder ce lien indispensable avec les étudiants, et puis que voilà, c'est aussi montrer aux étudiants qui fréquentent nos résidences et nos rues que, qu'on fait des choses en termes de transition écologique et qu'on est actif et voilà.
Et est-ce que le poste en service civique il a été créé en même temps que le poste chargé de mission transition écologique?
Juste après, du coup, dans la foulée, ouais.
Donc, un des gros objectifs, c'est de réduire les émissions de gaz carbonique. Quels sont les indicateurs de la consommation d'énergie et de l'émission de CO2?
Ouais, c'est une bonne question technique, mais en gros, on fait, alors tous les CROUS le font maintenant depuis quelques années, on fait notre bilan carbone. C'est sans doute quelque chose qui parle aux gens qui nous écoutent. Voilà, c'est, chaque administration maintenant est tenue de faire son bilan carbone, les entreprises aussi maintenant, il me semble, désormais. Et en gros, donc ça permet de savoir concrètement dans son activité, c'est quoi qui pollue le plus dans ce qu'on fait. Quoi. Et donc, par exemple, pour les CROUS, pas trop de mystère, ce qui génère le plus de GES, donc de gaz à effet de serre, c'est la restauration, les denrées alimentaires. Alors principalement d'origine animale, mais pas que, même les boissons, notamment j'étais surpris par ça, mais même les boissons ça contribue beaucoup en fait, parce que beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, et puis en fait on en fait beaucoup quoi, donc voilà, et puis après y a tout ce qui est chauffage en fait, tout simplement des bâtiments, donc nous au CROUS on n'a plus de chauffage au fioul, c'est encore le cas de certaines résidences en France, mais on a beaucoup de chauffage au gaz, qui est loin d'être le pire en termes de gaz à effet de serre, mais qui n'est évidemment pas le mieux non plus. Donc voilà, nous, c'est les deux principaux postes de gaz à effet de serre au CROUS en l'entour, c'est ces deux-là. Et donc, une partie de notre travail, c'est de réussir à diminuer chaque année ce bilan. Et pour l'instant, on y arrive. On a fait j'ai plus les chiffres, je pourrais peut-être vous les donner, mais on a fait un moins 6,5% par rapport à l'année dernière. Entre 2022 et 2023, on a réduit de 6% nos gaz à effet de serre. Donc voilà.
Et donc, quels sont les dispositifs qui ont déjà été mis en place déjà par rapport au fait de ne plus utiliser le gaz pour faire chauffer les bâtiments?
Ouais, alors t'as plusieurs choses. L'idée, c'est de faire des raccordements au chauffage urbain, on appelle ça, c'est un peu un beau barbare, mais je sais pas si, même moi, je n'ignore pas, enfin, je suis pas expert du tout dans ce domaine-là. Mais ça, c'est en gros, ça permet de réduire non seulement la consommation, c'est un peu plus économique et c'est aussi un peu plus écologique. Donc on se tourne vers ça maintenant. Évidemment, c'est des trucs à voir avec, avec la mairie, la métropole, parce que c'est des choses qui doivent être vues conjointement avec eux. Et après, il y a tout ce qui est, par exemple, sur Grandmont, sur le campus de Grandmont, pour parler d'un site connu, je pense, des Tourangeaux, Tourangelles. Voilà, c'était des vieilles résidences universitaires qui dataient des années 60. Voilà, donc là, il y a une bonne partie qui a été rénovée et isolée par l'extérieur. Et donc là, maintenant, ils attaquent dans les prochains jours les travaux à l'intérieur, ce qui fait qu'on aura des résidences qui vont être plus sympas, beaucoup plus écologiques, du coup, et plus économiques. Voilà, plus écologiques aussi, parce qu'ils vont mettre ils ont mis des panneaux photovoltaïques sur le toit. En gros, ça permet que l'eau chaude soit déjà à un niveau de chauffe assez élevé pour éviter que la résistance chauffe plus. Bon, je vous passe les détails, mais voilà. Ouais, c'est pour... Et voilà, si on peut rentrer en détail, voilà, c'est sûr qu'on pourra en parler longtemps de tout ça. Ouais. Et pour repérer les résidences qui créent le plus de gaz à effet de serre parce qu'elles sont mal isolées, etc., justement, le bilan carbone permet ça aussi, justement, de cibler de « Ah oui, ok, c'est cette résidence-là, visiblement, et ça déconne. » Enfin, ça déconne. On consomme beaucoup, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça, quoi.
Et est-ce que les CROUS ont tous les mêmes directives à l'échelle nationale ou est-ce que selon les régions, la gestion, elle peut varier ?
C'est une très bonne question. En gros, au-dessus du CROUS, il y a, peut-être vous le savez, les auditeurs qui nous écoutent, peut-être, il y a le CNUS, le Centre National des Heures Universitaires Scolaires, qui lui, fait des recommandations et coordonne l'ensemble des CROUS. Après, bon, chaque CROUS, peut appliquer, on va dire, sa politique et peut intégrer ou pas ces recommandations-là. Donc, voilà, en tout cas, dans la majorité des CROUS, tout ce qu'on fait, nous, par exemple, au CROUS de Saint-Antour, oui, la majorité des CROUS le font aussi, que ce soit sur les bâtiments, encore une fois, sur la restauration. Il y a très peu de CROUS, voire aucun en vrai maintenant, aujourd'hui, qui s'active pas sur ce sujet-là aussi, quoi.
Et alors, tu as déjà cité pas mal de points et peut-être que Maëva pourra compléter au niveau de la sensibilisation. Quels sont les objectifs clés de la transition au CROUS ?
Waouh, j'ai combien de temps pour répondre à cette question ?
On va dire dans les grandes lignes et puis après, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus en détail.
Moi, vraiment, mon travail principal, c'est vraiment de faire en sorte de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, quoi. Donc ça, c'est vraiment ma priorité. Et donc, c'est essentiellement de travailler sur les questions autour de la restauration et donc et de l'hébergement, quoi, du chauffage, encore une fois, beaucoup.
Ces deux grands secteurs-là, ouais.
Ouais,
alimentation et...
Voilà. Même si, du coup, j'aime bien travailler sur d'autres choses. Moi, mon truc, c'est plutôt, par exemple, les mobilités, mobilité douce, évidemment. Même transport en commun, sur comment on communique, comment on permet aux étudiants d'avoir accès à comment les étudiants internationaux qui arrivent, par exemple, à Tours pour parler de trucs concrets, ils sont au courant qu'il y a un dispositif qui s'appelle Velocity de la ville de la métropole. Voilà, comment on fait pour qu'ils s'en saisissent, comment on fait pour qu'ils... Bon, Pony, ça, ils le découvrent assez facilement parce que maintenant, ils sont déployés partout. Mais voilà, il y a toutes ces questions-là aussi, moi, qui m'intéressent vachement. Mais je sais que ça a un peu moins d'impact, en tout cas, pour nous, dans les gaz à effet de serre. Donc, c'est pas dans mes priorités, en effet, même si c'est un sujet, évidemment, sur lequel on travaille aussi.
Et alors, en termes d'information, de communication, comment est-ce que vous arrivez à faire parvenir cette information-là aux étudiants ?
C'est une bonne question, là, comme pour tout le monde. Hein, mais c'est une bonne question. On a un QR code, par exemple, qui fonctionne pas mal, qui est à l'arrière de toutes les chambres universitaires. Il y a une espèce de QR code et quand l'étudiant le flash, il a accès à plein d'informations diverses et variées. Et notamment, en termes de transition écologique, il y a notamment tout un petit laïus sur les éco-gestes à appliquer dans les résidences universitaires. Après, on essaie de communiquer sur les réseaux sociaux, avec un peu d'affichage aussi, même si on limite. Voilà, puis c'est toujours difficile de toucher les étudiants. Peut-être vous qui étiez étudiant il n'y a pas si longtemps encore, peut en témoigner. Mais les étudiants sont toujours, je trouve en tout cas, vachement sollicités de plein de trucs. Donc c'est vrai que c'est jamais évident de... mais du coup, je pense que l'une des moyens les plus efficaces, c'est justement d'avoir quelqu'un physique comme Maëva, un volontaire, qui puisse, elle, dans un restaurant ou le soir en résidence, même si ça concerne peut-être que quelques étudiants, au moins ces étudiants-là peuvent être au courant et voir concrètement ce qu'on peut faire, quoi.
Donc, scanner les QR codes sur la porte des chambres pour les étudiants qui nous écoutent et qui seraient en résidence CROUS.
Exactement.
Merci à vous pour cette présentation. On va pouvoir y revenir plus en profondeur juste après. On fait une petite pause musicale sur le 99.5 FM Radio Campus Tours. Que va-t-on écouter, Marie ?
On écoute In the Bleak Midwinter de... En fait, c'est le chiffre 3. Donc, est-ce que c'est 3, 3rd, voilà, considered.
Thank you.
venez d'écouter In the Bleak Midwinter de Third Considered sur Radio Campus Tours. Il est temps à présent de nous intéresser de plus près à nos invités. Alors je rappelle que Paul, Émile et Maëva qui œuvrent pour la transition écologique au Crous Orléans-Tours sont avec nous. Et on poursuit cette émission en nous intéressant plus particulièrement à l'alimentation, qui est un grand enjeu dans les émissions de carbone en fonction des produits consommés et de leur provenance. On vous laisse découvrir la chronique de Victor, un étudiant en master de droit de l'environnement, qui propose une chronique avec un point de législation pour cette transition écologique du Crous, mais qui pose aussi quelques petites questions à nos invités du jour.
Alors, en tant qu'étudiant, il faut comprendre que les Crous, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans notre vie. Pour un bon nombre d'entre nous, c'est ce qui va assurer notre logement, c'est aussi ce qui va assurer notre restauration, et même, selon les académies, ça va toucher à la culture ou en transport. Et donc, avec toutes ces compétences et ces champs d'action, on se rend compte que les Crous, ils ont vraiment un rôle majeur à jouer dans la transition écologique. Donc, parmi tous ces enjeux possibles, donc c'est-à-dire de logement, de restauration, etc., il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention, c'est celui de l'alimentation. Parce que en plus d'avoir un effet fort sur les pratiques agricoles, le Crous est quand même un énorme débouché, et donc ça peut être un gros levier de changement de pratique. Si on impose du bio par exemple, on va entre guillemets forcer un peu les agriculteurs à venir produire en bio. Ça peut aussi avoir un effet sur les transports, parce que plus on va produire proche des lieux d'écoulement des produits agricoles, moins on va avoir de transport, et donc moins d'émissions de CO2. Et ensuite, la question de l'alimentation, elle a surtout un fort accent social, et c'est pour ça que j'ai choisi cette question, parce que ça permet de relier transition écologique et aspect social. Et les pouvoirs publics, ils sont bien conscients de cet aspect social, parce que par exemple, c'est une question qui a fait l'objet d'un rapport d'information qui a été présenté à l'Assemblée nationale le 2 juin 2023 par monsieur Thomas Cazenave, qui est le député de la première circonscription de Gironde. Et ce rapport, il est intéressant parce qu'il souligne la précarité alimentaire, c'est marqué dans le texte, des étudiants. Parce que qui dit étudiant va dire petit budget et va dire du coup pas forcément les moyens d'avoir une alimentation saine et de qualité chez soi à la maison. Et donc au moyen des restaurants universitaires, les Crous, ils ont un rôle majeur à jouer sur cette question. Et si on prend quelques chiffres, selon les propres chiffres du Crous, les restaurants universitaires, c'est plus de 40 millions de repas à tarifs sociaux qui ont été servis en 2023. Les tarifs sociaux, c'est-à-dire les repas entre 1 et 3,30€. Si on revient du point de vue de la transition écologique, sur la question de ces repas, ce qui est important à noter, c'est que les Crous, ils sont soumis à la loi Egalim du 30 octobre 2018. Alors son petit nom, cette fois pour les curieux, c'est « Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ». Et l'objectif de ce texte, c'est d'améliorer la qualité des aliments servis et de réduire le gaspillage alimentaire. Et la restauration collective des Crous est soumise à cette loi et donc à ses objectifs. Et donc de ce fait, les Crous ils doivent respecter plusieurs obligations. En premier, ils vont avoir l'obligation de mettre à disposition des produits de qualité et durables aux étudiants, aux usagers des Crous, qui sont issus en partie d'une agriculture biologique et locale. Ils doivent informer les usagers sur la valeur nutritionnelle des produits et leur part provenant de projets alimentaires locaux. Les Crous, ils doivent aussi diversifier leurs sources de protéines. Ils doivent se substituer au plastique. C'est par exemple pour ça qu'on n'a plus de bouteilles en plastique, mais qu'on a des fontaines à eau maintenant dans les restaurants universitaires. Et ils doivent aussi encore lutter contre le gaspillage alimentaire. Par exemple, ils peuvent donner une partie des aliments non consommés à des associations comme le Resto du Cœur, par exemple. Et en partant de ce cadre juridique, il y a plusieurs questions qui peuvent venir à l'esprit pour l'application concrète de ces obligations. La première, moi, qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que les Crous ils choisissent des aliments dits « durables », entre guillemets. Quels sont les critères d'un aliment qui va pouvoir être dit comme « durable » Et est-ce qu'il y a une traçabilité des produits choisis? Est-ce que moi, en tant qu'étudiant, en tant qu'usager du Crous, je vais pouvoir m'informer sur les produits qui ont été choisis et savoir de où ils viennent? Et ensuite, qu'est-ce qu'on entend par amélioration de la qualité nutritionnelle des repas? Qu'est-ce que ça veut dire que la qualité nutritionnelle? Mais surtout, d'un autre côté, la principale question qui me vient à l'esprit serait du point de vue du Crous, est-ce que c'est des objectifs qui sont faisables? C'est la faisabilité de ces obligations. Parce que même si la loi Egalim, on comprend qu'elle a un fort effet social et que c'est un levier très important à mobiliser pour la question écologique, notamment de l'agriculture, ça engendre forcément des coûts qui peuvent être importants pour les Crous, et donc on peut se heurter à des contraintes économiques. Les objectifs ils peuvent se contrer à des contraintes économiques dans leur réalisation, d'autant plus que pour un organisme public, on est en ce moment dans un contexte de contraintes budgétaires. Et donc, en parlant de là, j'en viens à mes principales questions, c'est-à-dire que sachant que le bio coûte en général plus cher que les produits issus de l'agriculture qu'on appelle le conventionnel, j'aimerais poser deux questions à notre intervenant. La première, c'est est-ce que cette politique, cette loi Egalim et tous ses objectifs, ça a été co-décidé avec les CROUS? Est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire? Ou est-ce que ça leur a été, entre guillemets, imposé sans réellement tenir compte de leurs contraintes, et notamment les contraintes budgétaires? Et ma deuxième question, ce serait comment est-ce que les CROUS y font concrètement au jour le jour pour mettre en place ces pratiques et assurer la qualité des repas qui servent aux étudiants, à leurs usagers?
Donc voilà, on remercie Victor, étudiant en master de droit de l'environnement, pour cette première chronique et pour les quelques petites questions qu'il a posées.
J'ai dû prendre des notes.
Ouais. Déjà, sur un critère de faisabilité, est-ce qu'il y a eu quelques contraintes, quelques difficultés pour mettre tout ça en place dans le secteur de l'alimentation?
Ouais, mais en tout cas, c'est super intéressant. C'est cool de voir des gens comme vous et Victor s'intéresser à tout ça, c'est cool. Donc concrètement, ouais, cette fameuse loi Egalim, évidemment, on doit la respecter, comme d'ailleurs l'ensemble des restaurants collectifs, hein, même les écoles primaires, etc., les restaurations dans les villes. Concrètement, sur la faisabilité, par exemple, aucun CROUS, on peut le dire en toute transparence, ne respecte la loi Egalim à 100%. La loi Egalim, elle dit qu'il faut 20% de produits bio servis et il faut 50% de produits, comme il disait Victor, de qualité durable. En gros, ces produits-là, c'est tous les autres labels, on va dire, c'est-à-dire le label rouge, je pense que c'est un label qui parle à certains, le label bleu-blanc-cœur, IGP, en gros tous les labels qui attestent d'une certaine qualité, d'une certaine prise en compte on va dire du développement durable dans la production de ce produit-là, quoi. Donc il y a plusieurs labels, vous pouvez y retrouver facilement, hein, vous tapez loi Egalim label sur internet, vous trouvez toutes les informations. Et donc concrètement, ouais, sur la faisabilité, c'est pareil, en tout temps de transparence, ouais, les CROUS demandent un peu plus de moyens pour atteindre ces objectifs-là en termes de restauration. Donc, chaque année, ce taux augmente malgré tout. Il y a eu notamment dans le cadre du fonds vert, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, tous les CROUS peuvent proposer maintenant, notamment tout ce qui est viande. Il va y avoir beaucoup plus de viande en bio. Je ne pourrais pas vous donner tous les détails, mais vous pourrez retrouver facilement l'information sur internet. Et donc, ce taux de bio, ce taux de produits de qualité augmente par contre chaque année de manière plus ou moins importante. Mais augmente chaque année pour en effet, on espère, finir par atteindre ces objectifs-là de 20% de bio, 50% de produits de qualité. Et après, il y a tout ce qui est bien sûr autour du gaspillage alimentaire. Donc, on va faire là, Maëva, on a assisté à une réunion récemment, tu pourras en témoigner, pour faire en gros un peu des audits de gaspillage alimentaire, c'est-à-dire sur une semaine, par exemple, dans un CROUS, qu'est-ce qui est jeté le plus? Et quelle quantité, quoi, en gros. Et donc après, la question derrière de comment on fait pour réduire ce truc-là qui est massivement jeté, ou en tout cas le plus jeté. Et puis aussi, est-ce que vraiment on jette beaucoup? Est-ce que les étudiants jettent beaucoup de nourriture ou pas? Et puis, il y aura des gâchimètres aussi. Ils ont acheté des gâchimètres là, pour l'ensemble des sites, ou une espèce de trucs qu'on met à la fin des plateaux.
Je vais demander comment ça fonctionne. Voilà.
Ouais. j'ai pas vu ceux qui ont été choisis, mais il y en aura dans tous les rues de l'académie pour le coup, à la fin des plateaux repas. Donc ça sera pour le pain, et donc ça sera pour se rendre compte en fait de la quantité de pain qui est jetée, quoi. Pour le coup, ce sera spécifiquement pour le pain, puisqu'en fait les biodéchets, pareil, je vais pas rentrer en détail, mais sont alors au fur et à mesure, c'est pas le cas partout, mais du coup, vu qu'on a une obligation aussi de tri des biodéchets, enfin de valorisation des biodéchets, par exemple sur Orléans, du coup c'est récupéré par une entreprise qui en fait, je crois qu'elle en fait de la méthanisation après, derrière, voilà, etc. Et sur Tours, c'est pas encore le cas, mais ça va se développer. En fait, on attend aussi qu'il y a des prestataires et la métropole qui doit plancher sur le sujet là aussi, enfin qui planche sur ce sujet là. Donc tout ça se met en place. Voilà. Pour répondre à la question de Victor, même s'il y avait beaucoup de choses dans ce qu'il a dit, la loi Egalim, elle est pour l'instant pas respectée à 100%, mais ça sera le cas dans les années futures, je l'espère en tout cas. Et après, sur tout ce qui est gaspillage alimentaire, là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur tout ce qui est protéines végétales, il n'y a pas de souci. Il y a donc dans tous les rues de toute l'académie et à Tours, vous pourrez trouver un plat végétarien.
Oui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour mettre des options végétariennes.
Exactement. Et puis là, on va travailler au-delà du fait qu'il y ait une proposition sur la valorisation, d'avoir des plats végés qualitatifs, gustatifs. Et puis aussi voilà, de les valoriser, de les mettre plus en avant que les autres produits. Parce qu'on a, aussi un objectif d'avoir de plus en plus de taux de prise végétarien. Ça veut dire qu'on doit atteindre 30% de taux de prise végétarien d'ici 2030. Ça veut dire voilà, sur les plats qu'on sert, il faudrait qu'il y en ait 30 qui aient été pris, qui soient végétariens. Est-ce que j'ai été clair ou pas? Non. Si. Ok. Et pourquoi ça? On peut dire pourquoi? Ben, en gros, parce qu'on globalement, on sait que le végétarien émet moins de gaz à effet de serre que les produits d'origine animale, carnés, ouais, merci, notamment bœuf, agneau, veau, pour citer le trio de l'enfer des GES. Et donc voilà, le fait d'avoir plus de végétariens nous permettra de réduire aussi nos émissions carbone dans la restauration. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi là-dessus. Voilà. Et après, suppression de plastique, juste pour revenir en effet, qu'on a supprimé les bouteilles en plastique là, depuis le 1er septembre. C'est une obligation depuis le 1er janvier, mais on avait un petit peu anticipé au Crous Orlantour. Et donc, depuis le 1er septembre, il n'y en a plus. Et on installe au fur et à mesure des fontaines un petit peu partout, en effet, avec la fac aussi, enfin l'université, on installe aussi un petit peu partout, de manière à ce que les étudiants puissent voilà, trouver un point d'eau malgré tout, parce qu'il ne s'agit pas que de supprimer l'eau et que les gens puissent plus boire. Voilà, il faut aussi qu'ils puissent aller s'alimenter dans l'eau auprès d'une fontaine.
Et ce que demandait Victor aussi, c'est est-ce qu'il y a une traçabilité des produits pour les étudiants?
Ah oui, tu veux dire, est-ce qu'ils peuvent savoir...
Est-ce qu'ils peuvent savoir d'où proviennent ce qu'ils mangent?
C'est une bonne question, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. En tout cas, est-ce qu'elle est visible quand tu vas manger aux rues? Je ne pense pas. Ou alors, c'est peut-être certains rues qui font au choix ce truc-là. Mais voilà. Après, est-ce que tu peux avoir l'info si tu demandes? J'imagine sans doute, mais je ne crois pas qu'elle soit visible, en tout cas facilement, en effet.
Mais est-ce qu'on y parvient alors à Orléans-Tours d'avoir de plus en plus de local?
Vaste sujet encore. Pour faire simple, mais ça ne va pas être simple. Mais enfin, si, ça va être simple. En fait, tous les Crous, tous les chefs de tous les rues de France, ils ont un immense catalogue. D'accord? Ils ont tous le même, en fait. Okay. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils achètent, entre guillemets, tous les mêmes produits. Après, en fait, pour tout ce qui est fruits et légumes, légumes surtout, au Crous Orlantour, massivement, ils sont de la région, en fait, quand même, la plupart. Parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt de faire venir des poireaux qui viennent de Nice, alors qu'on en produit ici. Ou pour parler d'un truc qu'on produit en Touraine, de la pomme. Si vous prenez une pomme dans un des rues de Tours, il y a 99% de chances qu'elle vienne de la région ou des départements voisins, quoi. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais ce n'est pas forcément venant, en tout cas, d'acheter partout local. C'est d'autres contraintes, voilà, parce qu'il y a cette espèce de marché national. En gros, voilà, cette espèce de catalogue, il faut imaginer ça comme un grand catalogue. Et donc, on est un peu soumis d'acheter ce qu'il y a dans ce catalogue-là. Donc, voilà, si juste à côté de vous, il y a un mec qui produit des patates et qui vous en propose, peut-être ça sera possible d'en lui en acheter, mais il faudra attendre la fin de ce marché national-là sur les patates, parce qu'il y a déjà un producteur qui, lui, est rémunéré... pour produire les patates d'un certain nombre de Crous, par exemple. Quoi. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair, mais ce n'est pas évident. Hein. Tout ça est assez complexe.
Est-ce que cette politique a donc été co-décidée avec les Crous, ou est-ce que la politique, vous êtes littéralement tombé sur la tête, vous deviez faire avec?
La loi Egalim, je crois qu'elle a quand même... Je ne sais pas s'il en parle, Victor, de quand elle date, mais elle est quand même assez vieille.
Il me semble que c'est 2023.
Après adopté en 2023.
Adopté, d'accord.
C'est, ouais, c'est la loi Egalim 3. Alors,
bon, ah oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'elle a été remodelée et tout.
C'est ça, voilà.
Je sais pas. Enfin, je peux pas dire s'il y a une concertation nettement avec les Crous. Franchement, je suis pas suffisamment dans les hautes sphères pour répondre à cette question-là. Ce qui est certain, c'est qu'on est en tant qu'administration publique, eh ben, on est contraint de, enfin contraint au sens ni négatif ni positif du terme, mais d'appliquer ce qu'on nous demande de faire, quoi. Donc voilà, si on nous dit qu'il faut appliquer la loi Egalim en tant qu'administration publique, eh bien on fait le nécessaire pour l'appliquer à partir du moment où la loi est promulguée, quoi.
Et on te l'a pas demandé tout à l'heure, Maëva, là on est sur un volet alimentation, mais est-ce que toi il y a un secteur sur lequel tu aimerais particulièrement sensibiliser les étudiants?
Je pense que j'ai pas vraiment de de domaines de sensibilisation pour les étudiants, tous les domaines. Je souhaiterais sensibiliser tous les étudiants à tous les domaines qui touchent l'écologie. Et en parlant d'alimentation, en vrai, j'ai prévu aussi des ateliers cuisine zéro déchet, autrement dit aucun déchet dans la poubelle, que ce soit épluchure ou même les emballages des aliments, soit à l'aide des magasins vrap, ou alors il y a aussi le fait de recuisiner, les épluchures ou même les restes d'un plat qui traîne dans le frigo, si c'est mangeable en tout cas. Et il y a aussi le fait de cuisiner végé, autrement dit de proposer aux étudiants en fait qu'il y a d'autres protéines qui sont pas animales mais qui sont végétales et qui font l'affaire, qui
contrebalance et qui équivalent à peu près les protéines.
Exactement. Et donc en plus des recettes pas trop chères, parce que je comprends totalement que en tant qu'étudiant on n'a pas beaucoup les ressources financières pour acheter de la bonne nourriture,
dans du bio ultra local et de qualité, ça peut être parfois être compliqué.
Oui, voilà.
Si je peux me permettre d'ajouter un petit truc qui répond aussi à Victor et ce que vous dites là. Dans tous les sites à Tours, sur tous les campus, vous avez des assos étudiantes qui bossent avec des AMAP pour récupérer des fruits et légumes bio et locaux. Et donc, ils ont une subvention de la CEVEC. CEVEC, ça parle peut-être aux gens qui nous écoutent. C'est contribution de vie de campus. Contribution de vie étudiante et de campus, pardon.
La CVEC.
Exactement, la CVEC. Ouais. Et donc, ça permet. Alors, je ne pense pas que je dis de bêtises, mais ça fait 2 euros le panier, en fait. C'est-à-dire que l'université, via cette taxe, prend en charge du coup une partie des frais, ce qui fait que vous pouvez avoir des paniers de fruits et légumes bio et locaux sur tous les sites, tous les campus de Tours, pour 2 euros par semaine. Voilà. Donc, rapprochez-vous des assos étudiantes que vous connaissez sur vos campus, ou sinon vous pouvez soit venir vers nous au cours sur l'entour, la transition écologique, ou auprès de collègues de l'Université de Tours qui ont aussi un service de transition écologique qui s'appelle le SPOT. On leur passe un petit bonjour au passage.
Et l'alimentation, donc c'est pas le seul secteur crucial de cette transition. Tu disais tout à l'heure, notamment sur les questions de chauffage, mais la question c'est comment sont intégrées les énergies renouvelables et les innovations durables dans la gestion des bâtiments universitaires.
Waouh, t'as posé des questions. Ah, c'est trop bien, c'est trop cool. toi, je parlais tout à l'heure, donc tout ce qui est isolation des bâtiments, les panneaux photovoltaïques là, qui sont installés à Grandmont, donc on est sur des trucs là très récents et très très concrets. Vous pouvez aller faire un tour, hein. Vous verrez que ça a été isolé par l'extérieur, c'est plutôt chouette. Après, les innovations, alors si je veux te parler de trucs tout bêtes, mais en même temps qui jouent beaucoup, quasiment tous les éclairages, c'est des LED, typiquement, tu vois. Tu as des douchettes, des mousseurs, pardon, sur tous les robinets des chambres, vous voyez ce truc-là qui permet de réduire la quantité d'eau qui sort. Donc ça, c'est partout, il y a peut-être une ou deux résidences dans toute la région qui n'est pas encore à jour là-dessus, mais ça serait vraiment tout. Tu as pas mal de petites choses, genre il y a des chambres, il y a deux résidences où quand les étudiants ferment leurs portes à clé, ça éteint automatiquement toutes les lumières chez eux. Ça éteint obligatoirement tout, comme ça évite aussi au CROUS de payer, parce que les charges sont majoritairement prises en charge par le CROUS, donc ça évite... aussi au CROUS, hein, tout le monde sort gagnant là-dedans. Donc voilà, c'est pas trop d'innovation, tu vois. Je ne saurais pas te dire un truc ultra innovant, mais voilà, tout ce qui est énergie, c'est vraiment isolation, réseau de se raccorder au réseau de chauffage urbain quand c'est possible, évidemment, parce que c'est pas possible partout. Pourquoi pas des panneaux photovoltaïques. Et puis et après sur la gestion en effet des fluides quoi. Donc nous on a tout ce qui est, on a pas mal de choses autour des éco-gestes, pas mal de trucs autour de la maintenance, c'est-à-dire en gros permettre d'éviter qu'une fuite d'eau soit repérée 2 semaines après et plutôt pouvoir la repérer rapidement. Voilà, il y a des compteurs un peu partout dans les résidences pour savoir que ok au deuxième étage de telle résidence il fait actuellement 20 degrés. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Du coup, pour voir aussi où est-ce qu'il y a éventuellement des résidences où il fait froid, peut-être potentiellement, et à l'inverse, peut-être d'autres où il fait super chaud, et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire là, le chauffage dans tel endroit, quoi. Donc voilà, tout un tas de petites innovations, on va dire, en tout cas, qui permettent de réduire au maximum la consommation énergétique voilà, électricité, chauffage, eau dans toutes les résidences, quoi, en gros.
Et tu parlais de mobilité. Est-ce que la responsabilité du CROUS, c'est majoritairement de faire connaître donc, les transports comme le vélo, les moyens qui sont mis en place pour avoir accès au vélo, ou est-ce que ça comprend d'autres mesures ?
Non, en effet, non. Nous, on n'a pas cette compétence-là. Donc nous, ce qu'on fait juste, c'est... Alors, on a par contre nos compétences d'avoir dans nos résidences universitaires des parkings vélos de qualité, sécurisés, fermés, éclairés. Donc ça fait plusieurs années maintenant que c'est déjà lancé. Et à Tours en particulier, on peut dire qu'on est plutôt bien loti, même s'il y a encore des efforts à faire, hein, mais on est plutôt bien loti. L'université a aussi fait de même de son côté, donc ce qui fait que se déplacer par exemple en vélo à Tours...
Plus de pistes cyclables aussi, c'est vrai.
Tout ça devient... Voilà, se déplacer à vélo quand on est étudiant à Tours me semble maintenant assez facile, entre guillemets. Et on organise des bourses au vélo, accessoirement aussi. On donne des vieux vélos abandonnés à des assos cyclistes qui les retapent et les revendent à prix coûtant aux étudiants. On fait un peu tout ce truc-là. Puis après, voilà, il y a ce côté information, en effet, où voilà, il y a quand même beaucoup d'étudiants internationaux qui arrivent à Tours qui ne connaissent pas. Et donc, ça leur dire, écoute, toi, tu habites à cette résidence-là. Écoute, tu peux prendre un vélo city, ça coûte tant et ça se passe comme ça. Enfin, voilà, on fait en sorte d'avoir les équipements nécessaires et on communique sur le réseau cyclable qui existe à Tours et les partenaires utiles, quoi.
Eh ben, parlons-en des partenaires.
C'est ça. Est-ce que vous avez des partenaires locaux qui vous aident pour renforcer votre démarche ?
Ouais, évidemment, on travaille avec l'Université de Tours, évidemment, avec aussi d'autres écoles d'enseignement supérieur. Je pense à Brassard, je pense à l'ITS. Évidemment, avec la métropole aussi, par exemple sur les mobilités, parce que c'est eux qui ont cette compétence-là aussi. La ville de Tours aussi. Enfin oui, on travaille avec divers partenaires publics. Et puis, quelques-uns privés aussi. Je disais, les assos cyclistes, c'est du privé, on bosse un petit peu avec elles. On s'entoure bien sûr d'un tas de partenaires. Et puis les réseaux des CROUS, on parle souvent du réseau des CROUS, on s'entraide aussi entre nous. Quand un CROUS a une super idée et que ça fonctionne super bien,
son copain CROUS et on dit c'est super.
Voilà, exactement. Et on lui dit comment t'as fait, envoie-nous tout, comme ça nous évite de te repartir à zéro, quoi. Donc il y a aussi ça qui compte pas mal.
De quel soutien institutionnel est-ce que vous bénéficiez ?
Tu veux dire, qu'est-ce que tu entends derrière institutionnel ?
Est-ce que vous avez le soutien de certaines institutions publiques ? Alors, le CROUS est lui-même public, mais est-ce qu'il y a la mairie, par exemple, la municipalité ?
On travaille avec eux, je ne pourrais pas te dire si on a leur soutien, mais on travaille en tout cas avec eux, encore une fois avec la ville, la métro, la région aussi, le département, je ne crois pas même voir ça soit arrivé, en tout cas pas dans ce que moi je faisais. Et après, oui, donc on a, comme je disais, les CROUS sont gérés, enfin sont coordonnés par le CNUS, Centre National des Universitaires et Scolaires, qui lui-même dépend, on va dire, directement du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc voilà, après... c'est un peu ça l'organigramme. Je vous fais l'organigramme.
On en sait déjà plus donc sur cette transition écologique du CROUS. On se retrouve juste après une nouvelle pause musicale. On écoute Enchantée Julia, donc une artiste française R&B Neo Soul, et son titre Save Me, sorti en octobre dernier.
Entre tes airs et montées des eaux. C'est les autres. Je fais le saut de l'ange, Dieu de la scène, je saute. Scène et sauve-moi, je m'en sors, scène et sauve. Billet bleu ouvert, sur plaie ouvert. Comme un pansement, sur cœur ouvert. Baby, je suis tombé à l'eau. Et toi pour me sauver, t'as trouvé deux anneaux. Baby, baby, save me. Save me, baby, baby, save me. Do not send me. Regarde comme le monde est à nous. Et dans ton regard, tout devient doux. Mon cœur est brisé, il me fait défaut. Quand le chemin est truffé de faux. Au pied du puits, j'étais au fond des eaux. Je suis tombée à l'eau. Et toi, pour me sauver, t'as trouvé les anneaux. Baby, baby, save me.
C'était Save Me de Enchantée Julia sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Il est 16h45 et vous écoutez l'émission Sortez. Donc avec nous, toujours Paul-Émile et Maëva de la team pour la transition écologique au Crous. On se demandait quelles sont les plus grandes avancées en matière de transition écologique que le Crous a mené à bien. Petite question en toute simplicité.
ça ne serait pas si évident que ça. Parce que vraiment on joue sur plein de tableaux, voilà, resto, hébergement, mobilité, sobriété numérique, donc c'est pas facile de répondre à cette question là. Je dirais que je sais pas, en tout cas peut-être sur le déploiement du végétarien, pour revenir là-dessus, on a été assez efficace, ça s'est mis en place rapidement vraiment dans toute l'académie, et ça depuis déjà plusieurs années en fait, hein. Donc ça, je pense, ça a été quand même assez important. Et puis, après, mine de rien, encore une fois, pour citer le même exemple, mais les rénovations là, des bâtiments de Grandmont, je pense qu'on va jouer beaucoup en termes de notre impact carbone. C'est sûr que ça va se ressentir, c'est sûr que ça va se voir. Donc ouais, c'est un peu... c'était du coup, pour le coup, beaucoup plus cher. On peut dire le côté végétarien, c'était plus un travail... nous, au sein de ce qu'on propose, parce qu'en soi, ça ne nous a pas coûté plus cher. Et puis après, voilà, la rénovation, où là, c'était avec, ça s'appelait France Relance, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces subventions-là, ouais. qu'on permis de rénover tous ces bâtiments-là. Donc voilà, j'ai envie de te citer ces deux-là.
Et est-ce qu'il y a des projets qui sont à venir sur le campus des Deux Lions? Parce qu'on y est, en plus, on est en plein dedans, les bâtiments du Crous. Ils commencent à dater un petit peu, ou en tout cas, ils sont peut-être plus... Au top des normes en termes de de consommation d'énergie, enfin est-ce qu'il y a des projets à venir?
J'en parlais tout à l'heure à Maëva, il y a des travaux en ce moment au sein de la résidence du coup qui est juste à côté, enfin qui est au-dessus de nous, la résidence du Technopole à Tours. Ils sont en train de changer les plaques de cuisson. Ah oui. Voilà, les vieilles plaques, vous voyez celles d'avant, là. Tu vois. Donc ils sont en train de les changer par d'autres plus récentes et du coup beaucoup moins consommatrices en énergie. Et je disais, ils changent les volets aussi. C'est des volets roulants, vous avez peut-être ça chez vous qui nous écoutez. Et donc ils vont mettre des volets roulants toujours, mais qui sont isolés dedans les volets, vous voyez, avec une espèce de mousse. Voilà, bon, c'est des petites choses, mais qui en fait, mis bout à bout, hein, la résidence Technopole, c'est 400 et quelques logements. Donc quand on change ça dans 400 et quelques logements, nécessairement ça a un impact assez immédiat, on va dire. Et puis on a rajouté des quelques arceaux vélos aussi sur le parking, je ne sais pas si vous avez vu, on a supprimé quelques places de parking voiture, on a rajouté des arceaux et puis une borne qui permet de gonfler son vélo et de le réparer aussi, qui est disponible 24/24. Voilà, si je te donne des exemples de ce qui se passe là, dans cette résidence en particulier. Voilà, et après, si, il y a quand même le RU, tu as raison. On peut parler aussi du RU, je crois pas. Si, on peut parler d'un truc. Ils vont refaire toute la laverie. Donc, la laverie, c'est là où vous déposez votre plateau quand vous avez fini de manger. Justement, pour prendre. La nouvelle laverie aura aussi des machines plus performantes. Alors, je n'ai pas les détails, hein, mais en gros, c'est ça. Et surtout, ça permettra de mettre en place justement le tri des biodéchets dont on parlait tout à l'heure. Donc ça sera prévu, c'est prévu pour 2025. Donc voilà.
Du coup, ici, mine de rien, pas mal de, pas mal de projets.
Quel défi est-ce que vous faites face du coup au jour le jour, même sur le long terme, pour la transition écologique au Crous?
Je fais un peu du lobbying, j'aime bien dire ça, mais c'est un peu ça. En fait, il faut un peu convaincre tout le monde d'avancer là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Et de, parce que moi, tout seul, voilà, c'est, je ne peux pas tout faire. Donc, il faut que tous mes collègues cadres, mais même tout le monde, en vrai, on s'en fout, se mettent la main à la pâte. C'est pour ça qu'on fait des formations aussi. Je fais des fresques du climat avec, que j'agrémente d'une partie un peu éco-geste, empreinte carbone, etc. Dans le but justement que les agents du CROUS, par exemple, soient sensibilisés, se sentent concernés par cette question-là. Et donc, bah, ça, je pense que franchement, ça commence à apporter ses fruits aussi. Donc, ouais, ta question c'était difficulté, enfin tu disais ouais, défi quoi. Ouais, bah, c'est un peu ça, c'est faire en sorte que vraiment tout le monde soit conscient de la nécessité d'agir, ce qui en fait me permet derrière d'aller plus vite en fait, oui. parce que j'ai pas besoin d'aller convaincre telle et telle personne de faire ça pour ça, en fait elle le sait déjà, donc elle le fait sans même que j'intervienne forcément, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais
c'est un automatisme en fait.
Exactement, que ça devienne en fait un automatisme, tu as tout à fait raison. Et voilà, et franchement, on y arrive clairement. Là, ces derniers mois, on a vraiment fait des forts progrès là-dessus. Et donc, ce défi est en passe d'être réalisé, j'ai envie de dire.
Comment est-ce que les étudiants peuvent s'impliquer et contribuer à la transition écologique du CROUS et des universités en général d'ailleurs?
Ça, c'est pour toi, ça, Maëva.
Oui, j'étais en train
de réfléchir.
Mais il y a la fresque du climat qui a été citée d'ailleurs.
Oui, il y a aussi, comment dire, en vrai, les étudiants, ils pourraient s'impliquer soit déjà en scannant leur QR code sur leur porte.
Scanner les QR codes.
Ou même, se documenter. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est facile pour nous, en tout cas, en tant que jeune ou même n'importe quelle personne, voir un réseau social, par exemple Insta, noter écologie, voir peut-être certains comptes qui font vraiment qui donnent des conseils sur comment appliquer des gestes éco-responsables au quotidien, même des petits qui sont pas très chers et qui dépensent rien, c'est déjà pas mal. Après, on va pas obliger les gens à faire on va pas les forcer à qu'ils fassent ces gestes là parce que c'est la liberté de chacun. Mais en tout cas, il n'y a pas cet argument que c'est trop compliqué de mettre en place des gestes au quotidien qui sont plus écologiques et qui sont aussi plus économiques aussi. Donc en vrai, durant mes animations, j'espère donner énormément de conseils sur les domaines que touche l'écologie, par exemple les vêtements ou même... les magasins, le numérique aussi, et peut-être même les conseillers, certaines marques, certains influenceurs, youtubeurs, voilà.
Et est-ce que tu as remarqué ou vous avez remarqué un plus grand intérêt et une plus grande demande des étudiants pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement?
Je réfléchis, mais pour répondre le plus honnêtement possible, je sais pas, vraiment, ça fait 7 ans que je suis au CROUS, 8 maintenant. J'ai l'impression en tout cas que toujours il y a eu des étudiants qui avaient envie d'agir,
impliqués,
tu vois, ouais, c'est ça. Voilà, plus, je ne saurais pas te dire, j'ai pas forcément, en tout cas, j'ai le sentiment que. Ils sont plus au moins un peu conscients de la nécessité de bouger. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sans forcément s'impliquer, mais tu vois, ouais. Sans forcément s'impliquer plus, mais en tout cas, tous, ils ont quelque part dans leur tête que oui, en fait, il faudra peut-être un peu faire quelque chose, quoi. Si j'essaie de répondre.
Merci à vous pour votre participation. On peut retrouver le CROUS par quel moyen?
Le mieux, c'est quand même les réseaux sociaux. Je peux donner mon adresse mail si jamais il y a des assos étudiantes ou des étudiants qui ont envie d'en savoir plus et qui ont envie de proposer des choses aussi, pourquoi pas. C'est transition-écologique@crous-orléans-tour.fr. C'est beaucoup trop long.
On pourra le mettre nous sur le site internet avec le podcast.
Et puis Maëva, tu peux donner le nom Insta des volontaires du CROUS.
Oui, vous pouvez vous abonner sur volontaires CROUS Tour sur Instagram, ça fait plaisir et même il y a plein d'activités.
Et c'est là que vous serez au courant et surtout de toutes les activités que Maëva va proposer et des autres volontaires, hein, parce qu'on a 5 volontaires en tout qui font eux de l'animation plus générale, mais donc voilà.
À retrouver donc sur les réseaux sociaux et pas que avec les animations à venir. Donc place à l'agenda culturel, qu'as-tu à nous proposer, Samuel ?
Yes, alors depuis le 5 décembre jusqu'au 18 mai, exposition de photographie au château de Tours, le jeu de paume, qui est un centre d'art situé au cœur de Paris spécialisé dans l'image et qui invite à la réflexion autour de l'histoire visuelle. Ça s'exporte à Tours et rend hommage à la photographe et activiste italienne Letizia Battaglia à travers une grande rétrospective. La photographe est célèbre pour son travail sur la Cosa Nostra, mafia sicilienne qui est pendant les années de plomb entre 68 et 91. Cette exposition retrace ses débuts à Milan jusqu'à sa mort, survenue en 2022. Une sélection de 200 tirages permet de contempler la faculté de l'artiste à montrer le monde avec une passion fougueuse, en direct, sans cacher aucun aspect, des plus effroyables aux plus poétiques. L'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans et les détenteurs du PCE.
Du 18 janvier au 28 février, le festival Avec ou sans fil revient pour sa 7e édition. Le festival donc autour de l'art de la marionnette, organisé par l'Hectare à Vendôme, occupe sa place sur le territoire vendômois, mais plus largement sur la région Centre-Val de Loire, grâce aux 22 structures partenaires qui portent l'événement. De nombreux artistes nationaux comme internationaux sont à retrouver pour des spectacles et créations aux multiples formes. Ce sont pas moins de 36 spectacles qui s'étendent sur ce mois de festival et 70 représentations. Donc un très bon rendez-vous pour aller à la rencontre du théâtre d'objets et peut-être le redécouvrir. Le cœur du festival, on l'a dit, se situe à Vendôme, mais nous vous invitons à jeter un œil à la programmation pour retrouver tout lieu d'accueil des spectacles. Le tarif réduit est à 15 euros. Il se clôturera avec une date à Tours au Grand Théâtre le 28 janvier, mais nous aurons l'occasion d'en reparler.
Le vendredi 24 janvier, le TMB, le Tours Métropole Basket, accueille les Sables Vendées au gymnase Mon Conseiller à 20h. Et le samedi 25 janvier, soirée de clôture de la 32e édition du festival Désir Désir Autant Machine, organisée par le Prisme et le Dirty Crew, une soirée électro-techno pour faire vibrer vos corps et vos esprits dans un cadre friendly and safe, avec des performances réservées avec un public averti. C'est interdit aux mineurs, on vous aura prévenu. Pour la line-up, DJ Snake. Waouh. Et Shanix seront de la partie. En plus du set de Dirty Crew, on a eu d'en sortir Alexia et Marion, bénévoles de Désir Désir, qui ont représenté la programmation. Puisque c'est pas encore fini, il reste encore 4 jours. Le podcast de cette émission est à retrouver sur radiocampustour.com pour plus d'informations. C'est de 22h à 6h et le tarif réduit est à 12 euros.
Et donc si la soirée du Prisme et du Dirty Crew ne gagne pas votre cœur, mais que le dub vous parle, rendez-vous à l'ILU, anciennement les 3 Orfèvres, à partir de 22h pour vibrer au son des playlists concoctées. Et notre agenda se conclut avec le mardi 28 janvier, parce que oui, on fait du mardi au mardi, avec un café historique au prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard, à La Riche, autour des guerres de religion en Val-de-Loire. Il sera animé par l'historien Jérémy Foa pour la sortie de Survivre, son dernier ouvrage qui nous plonge dans ce sombre épisode qui a complètement chamboulé la France entre 1562 et 1598. L'entrée est gratuite, c'est à 19h.
Le podcast de l'émission est à retrouver sur radiocampustour.com. On se laisse sur une touche de musique avec Funk District, un groupe de funk français basé sur Paris, qui ont sorti leur dernier EP le 20 décembre 2024. On va écouter le premier titre de cet EP, Ain't No Reason, et nous vous souhaitons une agréable soirée. I know I shouldn't care, but I got to know where she boogies effortless. She's living in the groove, she's unstoppable. Living in the moment, I can't control the way that I feel, the way I want it. I think you've got me falling for real, I think you need it. Since you've been to see, you're all I know. Yeah.
revient pas aux ondes. To feel alright.